Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue pour ce 81e épisode, très heureux de vous retrouver officiellement pour cette rentrée. C'est reparti avec un épisode par semaine, chaque lundi matin. Pour ce nouvel échange, j'ai reçu Rob Spiro, le fondateur d'Imagination Machine, un startup studio for good créé à Nantes. Ils identifient des opportunités ambitieuses, recrutent des entrepreneurs talentueux et agissent en tant que cofondateurs sur le long terme. Ils fournissent le financement initial, un réseau de partenaires puissants en France et dans la Silicon Valley, et une aide très opérationnelle. Imagination Machine se positionne sur des projets d'envergure à impact social ou environnemental positif. Rob est un véritable serial entrepreneur. Né à Chicago, il revend sa première entreprise Aardvark à Google en 2010. Travaille ensuite notamment sur le lancement de Google Hangouts, l'ancien nom de Google Meet, et se lance par la suite dans une nouvelle aventure, Good Eggs, une société de livraison de produits frais et locaux en Californie. Fin 2017, après une dizaine d'années dans la Silicon Valley et une arrivée du côté de Nantes avec sa petite famille, il crée Imagination Machine. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de sa première entreprise Aardvark rachetée par Google et de sa deuxième entreprise Good Eggs. Son poste de product manager chez Google, sa vision de la culture américaine et française, le lancement d'Imagination Machine, son startup studio for good, et enfin, comment fonctionne un startup studio, quels sont les projets qui ont été cofondés par Imagination Machine. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Rob Spiro. Salut Rob, comment tu vas ?
Merci, salut, je vais bien.
Tu es le fondateur et le dirigeant de Imagination Machine. C'est un startup studio for good, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode. Mais avant d'en parler, j'aimerais revenir avec toi sur ton parcours et notamment ce que tu as fait avant d'entreprendre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Bon, mon parcours, ça commence, je suis né à Chicago, donc je suis un Américain. Et j'ai étudié l'histoire, rien à voir avec l'entrepreneuriat et la tech. Mais rapidement, je me suis installé dans la Silicon Valley quand j'avais 21 ans. J'ai travaillé un petit peu comme designer et rapidement, je suis devenu un entrepreneur. J'ai lancé une startup avec quelques amis de l'université. On a fait toute l'histoire en plus Silicon Valley. On a levé des fonds avec des VC. On a créé notre app avec, on a recruté des utilisateurs. Et au bout de 3-4 ans, on était acquis par Google. On a fait une exit. Moi, j'avais 25 ans à ce moment-là. Je suis devenu salarié chez Google. Google, c'est immense. Donc, on se trouve dans cette organisation avec des dizaines de milliers de personnes. Mais je suis devenu un product manager et j'ai aidé à intégrer la technologie de Aardvark, qui était le nom de mon première startup chez Google, qui est devenu une grosse partie du Google Assistant. Et puis, je suis devenu le product manager d'une autre équipe. Et on est sorti avec cette équipe Google Hangouts, les video chats, qui est maintenant Google Meet. C'était renommé, on s'était lancé en 2011. J'ai aussi travaillé sur Google Plus, le réseau social, qui n'a pas réussi, qui n'existe plus. Mais j'ai quitté Google assez rapidement parce que j'adore l'entrepreneuriat, le premier pas d'une entreprise, la partie créative, que j'ai trouvé moins chez Google. Et je voulais surtout utiliser la puissance que j'ai trouvée dans la Silicon Valley, le capital, le talent, la technologie, pour avoir un impact positif, pour faire du bien sur le niveau social, sur le plan social et environnemental. Et donc, j'ai lancé une startup en 2011-2012 qui s'appelle Good Eggs, qui est une genre de supermarché dématérialisée, où tous les produits viennent de producteurs et agriculteurs locaux et éthiques, souvent bio. Donc, on a lancé ça à San Francisco avec une autre cofondateur, on était deux. Et on s'est développé rapidement. Jusqu'aux 5 ans plus tard, on était 200, 300 salariés. Il y avait un moment où je me suis dit, le métier de diriger une entreprise des centaines de salariés, c'est plus du tout le même métier. Les défis sont complètement différents que les défis de création. Et donc, j'ai recruté à un moment donné une CEO pour Good Eggs, qui était une sorte de... Je me suis auto-viré en réalité parce que moi, j'étais le CEO, j'ai recruté une CEO. J'ai resté un petit peu, mais au final, j'ai, je me suis retiré d'un rôle opérationnel. L'autre parcours parallèle, c'est que j'avais rencontré une femme française de Nantes. On s'est marié à San Francisco. On avait un premier enfant qui était né à San Francisco. Et on s'avait dit toujours que ce serait bien de créer notre vie familiale en France parce qu'on adore le cadre de vie en France. Et donc, quand j'ai recruté une CEO pour Good Eggs, quelques mois plus tard, on s'est installé en France avec ma femme. On a déménagé. Good Eggs, je reste actionnaire de Good Eggs, je reste indépendant. Et c'est maintenant plus de 1000 salariés et uniquement en Californie. Et donc en France, j'ai pris une bonne année, 18 mois pour moi, d'être un papa et d'apprendre le français et de découvrir la France. Et puis j'ai lancé en fin 2017 Imagination Machine, qui est un studio de start-up. Et donc on crée des startups de nouveau, nous-mêmes, avec des entrepreneurs qui nous rejoignent. On peut parler plus de modèles avec cette conversation, mais ça fait 4 ans maintenant que j'ai fait Imagination Machine et on a co-créé une petite dizaine de startups.
Avant de parler de Imagination Machine, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'aimerais décortiquer un peu plus ton parcours et chaque aventure, notamment la première, Aardvark, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation.
Oui, c'est ça.
C'était de 2007 à 2010. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette première expérience entrepreneuriale, effectivement la fin de cette histoire, c'est un rachat par Google. Quel était ce produit? Comment s'est déroulé ces 3 premières années d'entrepreneuriat finalement?
D'abord, j'avais beaucoup, beaucoup de la chance parce que moi, j'avais 22 ans, je ne sais pas, quelque chose comme 23 ans. Et j'avais une amie de l'université qui avait 4-5 ans plus que moi, qui est fini plutôt que moi, qui lui, il faisait son master's pendant que moi, j'ai fait mon licence. Il est parti pour travailler chez Google et au bout de quelques ans, il a quitté Google et il m'a recruté d'être son cofondateur. Mais en vrai, moi, j'étais le junior qui était là pour chercher le café et faire le photocopie. Et puis, il y avait un autre cofondateur qui avait encore 10 ans plus que lui, qui était une chercheur dans l'intelligence artificielle, qui était une ami de lui à travers sa sœur. Bon, c'était une groupe où moi, j'avais la chance de me suis trouvé dans cette groupe. Et j'étais cofondateur, mais pas à part égale avec les autres. Et j'étais le junior. Au fur et à mesure, j'ai pris le rôle de, en gros, head of product et head of marketing dans cette aventure. Parce que il y avait un autre qui était beaucoup plus business, il y avait un autre qui avait été beaucoup plus tech. Et moi, j'ai bossé 100 heures par semaine pour apprendre, pour prouver que j'ai pu jouer avec les grandes, mais j'avais beaucoup de chance. Et donc, l'hypothèse de départ de Aardvark, c'était que le réseau social qui venait d'ouvrir avec Open Graph, plein d'autres choses qui fait qu'on peut créer des applis sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, Gmail. On s'est dit, il y a plein de données dans ces réseaux sociaux qu'on peut peut-être utiliser pour aider avec la recherche, le moteur de recherche. Et qu'en fait, avec un moteur de recherche, on fait notre recherche, on met des keywords dans Google, on a 10 liens pour chercher des informations, mais c'est très sec. Et en réalité, quand on cherche de l'information en vrai, naturellement, on cherche ça conversationnellement. On cherche ça par d'autres gens, on parle avec des gens, c'est comme ça qu'on apprend. Et est-ce qu'on ne peut pas trouver l'intersection entre les réseaux sociaux et méthode de recherche pour créer un produit qui est plus naturel? On avait un premier essai qui était une genre de service par téléphone où j'appelle un numéro et je parle avec quelqu'un. Ça n'a pas du tout fonctionné. On avait une deuxième idée qui n'a pas du tout fonctionné, une troisième idée qui n'a pas du tout fonctionné. Et je pense que c'était notre 7e idée et on peut parler plus de ce processus qu'on a utilisé parce que c'est quelque chose que j'utilise toujours. Mais on avait créé Aardvark. Et Aardvark, c'était un chatbot. À l'époque, toutes les meilleures applications de chat comme MSN Messenger, Yahoo Messenger et Gmail Chat, c'était les plateformes qu'on utilisait le plus. Donc, c'était avant Facebook Messenger, avant WhatsApp. Ils étaient tous alphabétiques dans leur liste des amis. Et donc, Aardvark, c'est écrit A-A-R. Donc, c'était le premier, c'est animal. En français, c'est un tamanoir. et en anglais, c'est Aardvark avec 12 A. Et donc, on s'appelait Aardvark pour être le premier dans la liste. Et l'idée, c'est que tu poses une question à Aardvark. Ça peut être n'importe quelle question. J'ai vu une recommandation pour un restaurant. J'ai vu savoir quel livre à lire pour apprendre plus sur temps. Pourquoi le gouvernement a fait ce choix. Je pose la question en chatbot. Le chatbot me répond tout de suite en disant « Ok, j'ai compris. Je cherche quelqu'un qui peut répondre à cette question. » Et dans l'espace de 30-60 secondes, j'ai une réponse de quelqu'un qui est peut-être dans mon réseau ou un ami d'un ami, un ami d'un ami d'un ami, qui est expert dans ce domaine, qui me donne une réponse. Et ça devient une conversation. Donc, je peux répondre, on peut continuer comme ça. Et donc, c'était une genre de moteur de recherche. On appelait ça un moteur de recherche social.
Génial. Donc, vous étiez un des précurseurs dans ce domaine, peut-être?
Oui, il y a un type de produit comme ça qui s'appelle Expert Network, réseau d'experts, qui est utilisé dans les domaines professionnels. Nous, on a créé quelque chose qui est beaucoup plus B2C. Et c'était assez technologique parce que le premier défi, c'était, OK, quelqu'un pose une question. Il faut maintenant comprendre c'est quoi le sujet de ces questions. Il faut trouver un expert dans quel domaine. Et ça, c'est assez complexe. Et c'était pour ça que c'était bien d'avoir un cofondateur qui était vraiment un chercheur dans l'intelligence artificielle. On a développé des choses qui sont maintenant, dans 2022, utilisées un peu partout. Mais en 2007, en 2008, c'était super avancé. Et l'équipe, parce que pendant 3 ans, on a créé une équipe d'intelligence artificielle. Maintenant, ces gens-là sont des leaders dans les équipes chez Apple et Google et d'autres boîtes. Mais le défi, c'était de comprendre la question et puis de faire un indexing tous les gens dans le réseau et de comprendre leur domaine d'expertise. Et pour ça, il faut faire un scraping de leur profil, Facebook, etc. Et aussi apprendre au fur et à mesure avec leurs réponses. Et puis, il y avait la partie app où, il y avait une chatbot qui, chaque fois qu'on reçoit une question, on comprend le domaine, il faut pinger, donc il faut envoyer des messages à 5-7 personnes pour avoir une réponse. Parce que de temps en temps, les gens ne sont pas là. Ou peut-être qu'ils ne sont pas là, mais ils vont dire « Oui, mais je ne connais pas la réponse. » Et donc, on envoie 5-7 ping. Et parfois, quelqu'un reçoit 2 réponses.
Et au moment du rachat, donc 3 ans après, en 2010, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment où un géant de la tech, qui était déjà Google à ce moment-là, vous rachète? Est-ce que c'était un objectif? Est-ce que c'était une fin en soi?
C'était intéressant parce que c'était un moment où on avait plein de momentum. Donc, des milliers d'utilisateurs chaque jour, je pense, qui s'inscrivaient. Les réponses étaient bonnes. C'est-à-dire, si tu poses une question à Aardvark, la majorité du temps, tu vas avoir une bonne réponse rapidement. Et donc, l'appli a bien fonctionné. On avait la sensation quand même que c'est plus une feature qu'il y a une app, qu'on existe dans les applications de chat, mais en réalité, ce qui sera vraiment puissant, c'est d'être dans un moteur de recherche ou dans un Gmail, mais plus prioritaire. Et qu'on avait du mal à vraiment démarrer l'usage quotidien par nos utilisateurs. Et donc, les utilisateurs utilisaient Aardvark de temps en temps. Mais bon, il y avait plein de signes positifs. Et donc, on est sorti pour lever plus de fonds. On a fait notre Series B et on avait des offres de fonds. Et c'était au même moment qu'on a parlé avec Google et quelques autres géants de la tech, parce qu'on les connaissait, parce que c'est ça aussi d'être dans la Silicon Valley, c'est que tout le monde se connaît un petit peu, on connaissait des gens qui travaillaient chez Google, etc. On avait une offre de rachat. Et donc, il fallait choisir entre une offre de rachat versus une levée de fonds Series B. Et on a choisi l'offre de rachat aussi bien parce qu'on était jeunes et on s'est dit, c'est super, on peut toujours faire de l'autre startup, mais aussi parce qu'on avait cette sensation que quand même, il y a quelque chose qui manque dans ce produit. C'est plus une feature.
Et du coup, ensuite, tu restes 1 an chez Google en tant que product manager. Effectivement, oui. t'en as un peu parlé. Et ensuite, tu pars assez rapidement pour fonder Good Eggs. Et du coup, j'aimerais en savoir plus sur cette deuxième expérience entrepreneuriale.
Oui, j'étais super motivé d'utiliser tout ce que j'avais appris pour faire quelque chose un peu plus concret, d'avoir un impact plus tangible. D'aider les gens. Moi, je ne suis pas passionné de la tech, en vrai. Je trouve ça super intéressant intellectuellement, mais je ne suis pas passionné. Ce n'est pas ça qui m'anime. C'est des outils. Mais ce qui m'anime, c'est des histoires humaines. C'est la nature. Et même avant de travailler, après que j'ai fini mes études à l'université, j'ai passé une saison sur une ferme. J'ai travaillé sur une ferme parce que j'adore ça. C'était un ami qui avait une ferme familiale et j'ai aidé à être un agriculteur pendant 6 mois. Et ça m'a marqué parce que j'adore ça. J'adore le produit qui sort de l'agriculture, la bonne nourriture. Je pense que le lien entre la santé humaine, la santé sociale et la terre est beaucoup plus fort qu'on se rend compte dans la société, dans la vie quotidienne. Et donc, j'avais envie d'utiliser le tech pour servir à ça. Et donc, on a lancé Good Eggs sans idée. J'avais aussi la chance qu'il y avait des investisseurs chez Aardvark qui a fait un bon exit, qui m'ont dit, Rob, si tu lances une deuxième startup, on est là avec une seed financing. Même avant de savoir le produit ou l'idée.
Il te faisait confiance en tant qu'entrepreneur, quoi.
Voilà. J'ai dit, OK, on lance Good Eggs. J'avais une cofondateur avec moi. Et dans le premier jour, on avait aussi trois premiers salariés. Ils étaient aussi des cofondateurs, entre guillemets, qui étaient des salariés, des membres d'équipe chez Aardvark, qui étaient chez Google et qui est parti avec moi. Et on s'est dit, OK, Good Eggs, on a une mission. Notre mission, c'est d'utiliser la technologie pour aider local food systems. En anglais, on dit local food systems. Ça veut dire des systèmes circuits courts, des agriculteurs, des distributeurs, des commerçants qui fait qu'il y a un système local. Et c'était tout ce qu'on avait. On n'avait pas une idée. On n'avait que la mission. On savait que c'était difficile pour local food systems, pour ce circuit court, que si je suis un agriculteur et je ne veux pas jouer avec les grands, je veux faire des choses à plus petite échelle, plus manuelles, mais meilleur pour la terre, meilleur pour la santé, c'est très difficile à gagner ma vie. Et si je veux acheter que de local, c'est aussi très difficile parce qu'on ne trouve pas forcément ce produit dans le supermarché. Donc, je peux aller au marché, mais c'est une fois par semaine, quelques heures. Peut-être que je ne suis pas dispo. Peut-être que je ne peux pas trouver toute la nourriture que je souhaite au marché. Bon, on ne savait pas la solution. On savait qu'il y avait une problématique. C'était une mission qui nous animait. Et donc, on pouvait lever des fonds. On a fait une levée seed le premier mois pour financer notre processus R&D pour trouver un produit. On a commencé, on s'est dit, ce serait intéressant de tester une supermarché avec livraison à domicile, avec que de bons produits locaux et éthiques et bio. Mais on s'est dit en même temps, ça doit être pas possible de faire ça d'une façon rentable et efficace. On savait pas comment faire, ça veut dire les entrepôts, les logistiques, trop compliqué. Mais on s'est dit, testons ça et on va faire fake it. On va faire ça en faux. Juste pour comprendre mieux l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'ils disent les utilisateurs, les consommateurs? Est-ce que c'est meilleur ou pas? Pourquoi? Et peut-être qu'on va prendre des choses qui vont nous emmener à faire avoir une idée. Et donc, on avait lancé quelque chose super simple avec une interface simple où on peut commander des produits. C'était complètement manuel. C'était complètement fake. Et donc, quand les gens commandaient des produits, on est allé au marché ou au supermarché pour chercher ce produit. On a repackagé ça et on a livré nous-mêmes. Donc, c'était pas du tout une offre. C'était pas scalable. C'était quelque chose où, si on considère nos salaires, etc., pour chaque commande de 50 euros, on a dépensé 1000 euros pour le livrer. Mais on a fait ça pendant quelques semaines pour apprendre. Et en réalité, les gens adoraient le service, pour plusieurs raisons. C'était une qualité de nourriture qu'on a pu accéder à qui était top, parce qu'on est allé au marché, on est allé aux fermes pour chercher ce produit. La qualité de service de livraison à domicile était top. On ne savait juste pas comment l'opérationnaliser. Et donc, on a fait un deuxième test, une troisième test, une quatrième, que chaque test était une nouvelle idée. Et chaque fois, on a appris tellement de choses, aussi bien sur l'expérience consommateur que sur la partie logistique, qui nous a amené à faire le prochain test, qui au bout d'un an, 12 mois, on avait fait 6 ou 7 lancements de produits à petite échelle, en fake. Et on s'est dit, allez, je pense qu'on a une idée maintenant de comment faire la première idée, mais maintenant on comprend comment faire. On a mieux compris l'opération, etc. On a compris qu'en fait, l'industrie de food, c'est pas que une industrie, c'est chaque rayon du supermarché, en vrai, c'est une industrie à part. L'industrie des poissons, c'est différent des fromages, c'est différent des fruits et légumes. Et donc, on a commencé à comprendre toutes les nuances de ça. On a commencé à comprendre les nuances de logistique pour chaque type de produit qui fait qu'on a pu relancer quelque chose qu'on appelait Good Eggs, mais avec une vraie opération et avec beaucoup, beaucoup de technologies dans l'entrepôt et dans la supply chain pour faire en sorte que c'est soit efficace.
Ouais, donc un système logistique assez automatisé, enfin, dès que la personne commande, c'est empaqueté et livré potentiellement.
Tout à fait. Et qui fait que dans un supermarché, on peut avoir 100-200 suppliers, producteurs, mais ce n'est pas vraiment le producteur direct. On commande des distributeurs, des intermédiaires. Parce que dans un supermarché, c'est compliqué d'avoir plus de... J'invente le chiffre, mais pour donner l'ordre de grandeur, c'est difficile d'avoir plus de 200 producteurs, suppliers. Et donc, nous, on a créé un logiciel qui permettait de gérer 10 fois plus de suppliers avec 10% de volume chacun. Parce que c'était avec un logiciel pas super complexe, mais qui est un logiciel bien fait. Qui fait qu'on avait un supermarché qui pouvait commander directement de chaque ferme et producteur directement, sans intermédiaire. On pouvait trouver le bon intermédiaire pour le transport. Et tout ça, c'est des questions très détaillées qui fait qu'on a une offre pour le supermarché. On a un assortment qui est que de bons produits, qui viennent de petits producteurs. Et donc, c'était tout dans les détails. En fait, toutes les innovations étaient dans les petits détails de comment ça fonctionne.
Ouais, OK. Donc, tu restes chez Good Eggs pendant 4 ans, de 2011 à 2015. Même question que pour Aardvark. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience?
J'ai appris énormément de choses. Une fois qu'on a commencé à scaler aussi, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris. On a grandi, on a développé trop vite et j'ai dû fermer des entrepôts parce qu'on est lancé dans d'autres villes avant que le modèle était vraiment rentable. J'ai levé plein de fonds, mais j'ai dépensé trop rapidement ces fonds, donc j'ai dû encore relever. J'ai appris comment gérer une équipe de 10 et puis 20 et puis 50 et puis 150. Et puis 250, comment recruter et gérer une équipe de cadres, c'est des choses que j'avais jamais fait avant. Et énormément d'apprentissage. Et j'ai appris des choses the easy way, comme on dit en anglais, c'est-à-dire j'ai appris parce que j'ai lu des livres, il y a des coachs et des mentors qui m'ont appris des choses. Et j'ai aussi appris the hard way, en anglais, c'est-à-dire j'ai fait des erreurs que je ne fais pas encore. Parce que c'était douloureux, mais donc il n'y a pas une chose que j'ai tiré de cette expérience. C'était 5 ans très très riche.
Et donc tout ce bagage, toute cette expérience, tout cet apprentissage, tu vas l'utiliser pour créer Imagination Machine 2 ans après, en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc entre temps, effectivement, tu arrives en France, à Nantes très précisément. Comment ça se passe cette arrivée en France, ce passage des États-Unis à la France?
Bah, pour tout te dire, on est arrivé en 2016. J'avais une bébé. J'étais pas en burn-out, mais j'étais bien fatigué après 10 ans dans la Silicon Valley avec une rythme de travail qui était super intense. Et je me suis dit, peut-être je vais pas faire du start-up ou du tech. Peut-être je prends du temps pour moi et j'ai fait une reconversion. J'avais en tête de devenir une cuisinier ou d'ouvrir un restaurant, quelque chose comme ça.
Toujours relié à la nourriture.
Oui, ouais, j'aime bien ça. Et je voulais faire quelque chose beaucoup plus petite échelle, d'avoir des contacts avec des gens. Et j'ai pris du temps pour moi. J'ai appris plein de choses, j'ai réfléchi aussi sur mes expériences chez Good Eggs. J'ai commencé à rencontrer des gens dans l'écosystème nantais, dans le numérique, et c'est ça qui m'a fait penser, en fait, ces gens sont super sympas. Il y a un esprit qui est très différent de Silicon Valley, en vrai. Il y a un esprit où les gens sont là, pas toujours faire des choses à impact positif, mais pour faire du bien, pour être en communauté ensemble, pour avoir un impact sur le territoire, pour s'entraider. C'est pas la même chose dans le Silicon Valley, même si il y a plein de gens sympas. C'est beaucoup plus compétitif. Il y a 100 fois plus de startups et des investisseurs et de qui fait que c'est plus anonyme, c'est moins personnel et que c'est très, très compétitif. Et j'ai trouvé un écosystème à Nantes. Et je dis à Nantes, pas en France, parce que c'était vraiment l'écosystème à Nantes que j'ai trouvé. Je savais pas les gens à Paris. Je connaissais pas les gens à Paris, mais les gens étaient sympas et tout le monde voulait voir des succès autour d'eux. Et donc, je me suis dit, juste pour les histoires humaines, ce sera cool d'aider ces gens, de travailler avec ces gens. Et c'était ça, la genèse de l'histoire Imagination Machine.
Ouais, et puis l'écosystème nantais est super riche en plus.
que ce soit dans le digital, dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est vrai que je suis rennais, mais je connais la richesse de l'écosystème nantais.
Oui.
Tu crées ensuite, du coup, Imagination Machine. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne un startup studio?
Alors, un startup studio, on commence avec un processus de R&D. Donc, on a à l'intérieur une équipe, une petite équipe, où c'est notre job de, en permanence, essayer de trouver de nouvelles opportunités pour des startups. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des opportunités pour avoir un impact positif socio-environnemental, donc des innovations qui peuvent aider le monde, tout en étant des business privés et rentables. Et c'est ça qu'on cherche en permanence. On ne cherche pas forcément des idées, tout fait, on cherche des opportunités, des problématiques. Et une fois qu'on a une bonne problématique, on dit, ah tiens, il y a quelque chose à faire ici. On a une intuition qu'on peut trouver une innovation. On commence à recruter des entrepreneurs. Donc, c'est des entrepreneurs sans projet. C'est des gens qui souhaitent entreprendre, qui a cette énergie, qui a cette envie, qui a ces compétences, mais qui n'ont pas forcément leur propre idée ou leur propre équipe. Et nous, ils vont nous rejoindre et ensemble, on va essayer de trouver une idée pour répondre à cette problématique, cette opportunité. Et on finance tout ça, donc on paye un petit salaire à cet entrepreneur. C'est pas très compétitif, mais ça permet aux gens de prendre des risques avec nous. On a un budget pour le projet qui fait qu'une fois qu'on trouve une idée, on peut le développer. Dans la première phase, on peut recruter les premières équipes et payer leur salaire, on peut trouver les premiers clients et soit on crée une société qui devient suffisamment rentable pour s'autofinancer, ce serait génial. La plupart du temps, on crée quelque chose qui a suffisamment de momentum mais pas suffisamment de rentabilité et donc à ce point-là, on aide cette startup à lever des fonds avec des VC.
Ok, donc vraiment du process de A à Z, quoi.
Oui. On n'est pas des investisseurs, même si on finance des premiers pas. On est des entrepreneurs, on est des cofondateurs.
Ouais, vous aidez sur la capacité d'exécution de l'entrepreneur, finalement, et du projet autour de la problématique.
Exactement, et on a aussi notre propre méthodologie de R&D qu'on utilise. Chaque entrepreneur amène aussi leur propre processus et méthodologie. Mais on essaie aussi d'utiliser nos apprentissages. Parce que, à force de faire des startups et de faire ce processus de premier pas, on apprend énormément de choses. Et si on peut mettre ces apprentissages au service de tous nos nouveaux projets, ça fait un gain de temps énorme.
Comment est-ce que vous identifiez les entrepreneurs qui vous rejoignent? Est-ce qu'il y a un process de sélection? Comment ça se passe?
Oui, c'est peut-être la plus importante partie de notre métier. On fait plein de choses. Donc, on essaie d'attirer des candidats en permanence avec des offres sur Welcome to the Jungle, sur LinkedIn. On a une offre d'Entrepreneur in Residence qui est ouverte en permanence. Et on a des centaines de candidatures par mois spontanées qui ont évalué, qui ont regardé. On fait aussi chasseur de tête. Donc, si on a une problématique ou un projet qui est dans un certain domaine, peut-être qu'on va aller chercher des gens dans ce domaine-là. Et on fait beaucoup de referrals, de cooptation. On a déjà des entrepreneurs qui travaillent avec nous et où ils parlent à leurs amis, à leurs contacts, à leurs anciens collègues, qui fait qu'on a un flux de candidats comme ça. Et on essaie de parler avec un maximum de gens. On ne fait pas des évaluations sur CV en vrai. On parle avec des gens, on essaie d'évaluer pas que leurs compétences métiers, mais aussi leur énergie, leur propre motivation. Pourquoi ils ont envie de faire ça? C'est quoi leur histoire qui leur amène à faire ça? C'est quoi leur tempérament? On a envie de trouver des gens qui sont très ambitieux, qui ont faim, mais qui sont en même temps très humbles, très à l'écoute, pas d'ego. C'est souvent difficile de trouver ces choses ensemble. On cherche des gens qui sont vraiment motivés par leurs valeurs, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on est différent de tout le reste, c'est qu'on est à impact positif, on est for good, mais des gens aussi qui sont motivés par le business, par les chiffres.
Bien sûr. Est-ce que tu peux me parler des projets qui sont sortis de Imagination Machine?
Oui, alors le premier projet qu'on a fait, ça s'appelle JO. J-H-O. C'est une nouvelle marque de tampons et serviettes hygiéniques. Maintenant, on fait plus de produits aussi pour accompagner des femmes dans leur intimité. Et c'est une start-up avec plusieurs innovations. Déjà, c'est un produit sans, parce qu'on utilise le coton bio. Est transparent parce qu'on liste tous les ingrédients et c'est un peu étonnant, mais c'est une industrie où les gros fabricants comme Tampax, etc., on ne sait pas leurs ingrédients. Ils n'ont pas, ils sont pas obligés de lister leurs ingrédients, et donc on, les composants de ce produit, donc on ne sait pas en vrai. C'est aussi une innovation parce que c'est un modèle d'abonnement sur Internet. C'est un produit adapté à l'abonnement. Et donc, plus besoin de penser ça tous les mois et d'aller au supermarché. Et c'est une innovation parce que c'est un modèle solidaire. Donc, pour chaque boîte achetée, pour chaque achat sur le site, il y a une donne aux ONG qui aident des femmes dans le besoin en France et à l'étranger. Et donc, c'est aussi de participer dans un mouvement d'être une cliente déjà. Et donc, avec toutes ces innovations, on a lancé ça avec deux entrepreneurs talentueux. Et ça a fonctionné très rapidement, très bien, très rapidement. C'était avec ce premier succès aussi qu'on a pu lever plus de fonds pour Imagination Machine, qu'on a fait en 2019, et de lancer d'autres startups.
Ok, donc c'est un startup studio, mais finalement qui fonctionne comme une startup, en levant des fonds, en faisant évoluer son...
Tout à fait, on est absolument une startup nous-mêmes, oui, parce qu'on est une équipe opérationnelle, on est très engagé avec les améliorations continues, donc on est en permanence en train d'améliorer nos propres processus, d'apprendre de chaque nouveau projet est meilleur. Techniquement, on est structuré comme une startup, on est une SAS, même si financièrement, on est un peu plus comme une fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires. On lève des fonds, on investit ces fonds dans la création de valeur, dans la création de start-up, ou on prend des parts dans la start-up avec l'objectif qu'on va vendre nos parts dans le futur pour faire un retour sur investissement. Je peux parler de quelques autres projets. Rapidement, on a lancé une start-up, on a co-créé une start-up qui s'appelle Beam Energy, fait un nouveau type de panneau photovoltaïque, plug and play. Donc, c'est des panneaux photovoltaïques qu'on peut acheter sur le site ou dans un magasin. Et on amène ça chez nous sans un installateur, sans un expert. Mmh. On branche ça dans une prise classique. On peut mettre ça sur le mur extérieur d'une maison comme un tableau ou sur le sol. Et ça marche. Ça injecte de l'électricité dans notre maison. C'est super simple. Et ça cartonne. Et c'est une vraie innovation plus technologique pour la transition énergétique. On a co-créé une startup qui s'appelle Les Mini-Mondes. Les Mini-Mondes, c'est une nouvelle marque de jouets enfants et de magazines enfants qui utilisent des matières responsables, compostables, recyclées pour leurs jouets. C'est un nouveau type de plastique. Et des magazines enfants aussi qui a un vrai message, une vraie mission. C'est de faire en sorte que les enfants soient plus ouverts au monde, aux aventures, aux autres cultures. Donc, chaque mois, il y a une nouvelle destination. Il y a une petite famille qui prend le tour du monde. Et chaque mois, il y a une nouvelle destination. Et les enfants peuvent recevoir une magazine que pour eux sur le sujet de cette destination avec des coloriages, des gommettes, des histoires, des petits vocabulaires dans une nouvelle langue, des recettes de cuisine. Et ça cartonne, cet abonnement magazine. On a co-créé une startup qui s'appelle Il était plusieurs fois. Ça aussi, c'était une startup qui existait avant, comme Vivre Marché, mais cette fois-ci, on a fait un investissement pour devenir associé. Et avec les fondatrices, on a relancé la startup avec quelques autres innovations qui est sorties dans notre processus, notre méthodologie. Et donc, aujourd'hui, il était plusieurs fois, c'est un site e-commerce de vêtements enfants en seconde main. Mmh, mais c'est pas décentralisé, c'est centralisé. Donc, c'est un modèle d'achat et vente. Donc, on rachète des vêtements d'occasion des familles partout en France. Et on a un réseau d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui vont venir chez vous pour récupérer ces vêtements. Donc, on fait collecte à domicile. Tout vient de notre entrepôt à Nantes. On fait un tri. Donc, on sélectionne que les articles qui sont super qualité. Donc, tout ce qu'on trouve sur le site, c'est en super état. On repasse, on prend des photos et on remet en ligne. Et comme ça, on a l'expérience de neuf, mais avec des produits second main qui sont beaucoup moins chers et qui ont un impact écologique beaucoup plus faible.
Avant de passer à la partie bilan, premier bilan sur cette aventure, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, notamment le nombre de projets accompagnés sur Imagination Machine et puis les objectifs futurs des prochaines semaines, des prochains mois?
Oui, ça fait 4 ans. On a lancé une vingtaine d'explorations, donc le début du projet. Et la plupart du temps, dans 12 cas, on a arrêté ces explorations au bout de quelques mois, parce qu'on n'a pas réussi à trouver le bon produit, le bon concept, la bonne équipe. Et dans 8 cas, on a créé des startups. Donc, on a 8 entreprise ou on est actionnaire associé dans ces 8 entreprises. On a autour de 150 salariés dans ces 8 entreprises. On a fait pas loin de 15 millions de chiffre d'affaires en 2021. Et une croissance très importante. On voit que c'est assez rentable. Donc, la valorisation de nos parts dans ces startups, parce qu'une fois qu'on lève des fonds avec des VC, nos parts sont valorisées. Et donc, on voit que nos parts, il y a une valeur qui est bien au-delà de tous nos investissements, de tous nos coopérationnels. Donc, c'est assez rentable. Et on a envie de continuer de faire ça, de lancer une dizaine de nouvelles entreprises dans les prochaines 3-4 ans.
Et du coup, on peut passer à la partie bilan avec deux petites questions. Qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile pour toi dans cette aventure? Et je parle de la dernière.
Oui. C'est rigolo parce que j'ai commencé Imagination Machine en me disant, j'ai appris tellement de choses dans le Silicon Valley, maintenant je peux appliquer ces apprentissages. Mais en vrai, les apprentissages chez Imagination Machine étaient aussi forts, voire plus forts que tous les apprentissages dans le Silicon Valley. Parce que de faire 20 startups dans 4 ans, on apprend tellement de choses. La vitesse d'apprentissage, c'est énorme. Donc, c'est rigolo parce que c'est pas un échec, c'est pas une difficulté, mais c'est difficile d'apprendre parce qu'il faut se remettre en question en permanence. En permanence, de dire que je connais pas tout, il faut que j'apprenne, il faut que je change comment je fais les choses, ce qui est difficile.
Ouais, c'est clair.
Mais c'est super riche, super riche. J'adore.
T'as du tout réapprendre, quoi, en fait, finalement.
Oui, et même toujours, même maintenant, d'être dans cette posture.
Bien sûr.
De continuer d'apprendre et que tu es au tout début de... Si je imagine ce que je vais apprendre dans ma vie, je suis au tout début.
C'est clair. Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui?
Je suis fier de l'esprit qu'on a chez Imagination Machine, de l'esprit qu'on a avec une startup qui est positif, optimiste, mais aussi pragmatique et réaliste, qui est social dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire on est empathique, compassionate, je ne sais pas comment dire compassionate en français, on s'entraide, mais on est motivé, on est ambitieux. Et c'est un esprit qui est une ambition pour nous. On parle souvent de culture des entreprises, c'est un peu la même chose, et je suis fier de ça.
On va pouvoir passer à la partie, on est à l'avant-dernière partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Avec quelques petites questions, un peu plus génériques, on va dire. C'est quoi pour toi la différence de culture entre les États-Unis et la France? C'est une question que j'ai posée à beaucoup d'entrepreneurs français qui sont allés entreprendre aux États-Unis. C'est la première fois que je la pose à un entrepreneur américain qui est venu entreprendre en France.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences. Il y a des différences un peu plus factuelles et puis les différences un peu plus subjectives. Aux États-Unis, c'est un marché beaucoup plus grand. Et donc, ça veut dire plus de compétition, ça veut dire plus de vitesse dans le scaling, quand quelque chose marche, il y a plus de financement, etc. Et tout ça, ça change tout, en vrai. Il y a une culture de prise de risque plus fort aux États-Unis parce qu'il y a une histoire un peu culturelle qui est, on va avoir l'idée gênée et ça va nous rendre millionnaires, celebrity le jour lendemain. C'est quelque chose qu'on a tous aux États-Unis intuitivement dès nos enfances. Il n'y a pas la même histoire culturelle en France. Et vu que tout le monde a ça en tête, ça veut dire que les investisseurs sont plus prêts à prendre des risques très tôt, que les entrepreneurs sont plus prêts à prendre des risques. On est beaucoup moins dans le défensif avec nos aventures business. On est beaucoup plus dans l'offensif tout de suite. On est aussi plus... l'échec, c'est moins grave. Aux États-Unis, parce qu'on a ces histoires, parce qu'on prend des risques en permanence. Je pense que dans le marché consommateur B2C, il y a beaucoup plus de early adopters aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à essayer des choses qui sont un peu nouveaux. C'est aussi le cas dans le B2B, je pense, mais c'est un domaine que je connais moins. Mais on peut essayer quelque chose un peu farfelu et on va trouver des clients. Je pense qu'en France, la culture est beaucoup plus conservateur, même s'il y a bien sûr des gens qui sont early adapters, qui sont prêts à essayer des choses nouvelles. On est moins motivé pour aller chercher des choses qui sont nouvelles en permanence.
Et ma deuxième question, c'est quel conseil donnes-tu justement aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui lancent leur boîte?
le premier conseil que je trouve le plus important, c'est que l'investissement entrepreneurial, c'est un investissement énorme de l'énergie, de nos réseaux, bien sûr, de nos finances aussi. Mais c'est un investissement de nos vies. On va passer des années sur un projet, voire une vie entière. C'est un investissement très important. Il faut trouver le projet et les causes qui vaut le coup, qui ont du sens. En anglais, on disait qui are worthy. Find projects that are worthy of your investment. Parce que de faire ça que pour quelque chose qui est une optimisation business, c'est dommage d'investir tellement d'énergie dans quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier conseil.
Très bien. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure en particulier?
Oui, j'ai parlé au départ que j'avais de la chance de me trouver, dans une équipe chez Aardvark, des gens plus expérimentés, plus âgés que moi. Et c'est des gens qui m'ont appris énormément de choses sur le processus, sur la méthodologie d'être en contact avec des utilisateurs en permanence, mais aussi sur comment travailler, comment être pragmatique, logique, rationnel dans nos choix, de considérer toutes les options, d'avancer méthodologiquement. Et j'avais beaucoup de chance de rencontrer ces gens. Et avec ces gens, on parle de la philosophie, de la littérature, pas de business. C'est des sujets qui nous apprennent comment réfléchir et comment penser. Et c'est ça qui est utile dans le business.
Ouais, ça colle au dernier épisode qui a été publié sur Serial, où en fait on a plus parlé de philo que d'entrepreneuriat.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on disait ça justement que aujourd'hui, dans la majorité des bouquins de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat, la majorité des bouquins s'inspirent de livres de philo d'il y a très longtemps, quoi, finalement.
Tout à fait.
Donc ça colle parfaitement. Et pour conclure sur cette avant-dernière partie, est-ce que tu peux me citer une erreur à ne pas faire en tant qu'entrepreneur? Ou est-ce qu'il faut la faire, cette erreur?
les erreurs que les entrepreneurs font souvent, qu'on essaie chez Imagination Machine de ne pas faire, c'est d'être trop attaché à leurs idées. On tombe amoureux de nos idées. On dit que c'est parfait et qu'il faut juste que les gens comprennent nos idées et ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Et d'être à l'écoute du marché, ça veut dire d'accepter que nos idées ne sont pas parfaites, qu'il faut les changer, qu'il faut les jeter dans les poubelles parfois. Ça, c'est l'erreur que les gens font.
Les corriger ou les jeter, effectivement. Ouais. C'est vrai que ça arrive souvent. Et c'est quelque chose d'assez normal, finalement. Hein. C'est propre aux entrepreneurs aussi, quoi.
Tout à fait.
On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides, même si à chaque fois, t'as le temps, évidemment, d'y répondre. Mm-hmm. Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Il y a un livre par un psychologue et philosophe américain qui s'appelle Jonathan Haidt, qui s'appelle The Righteous Mind. Et ça parle de pourquoi les gens ont des avis souvent politiques, mais pas que, tellement tranchés. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est par leur tradition, leurs parents? Et c'est brillant parce qu'il montre que c'est un type d'émotion qu'on a tous, qui est différent, ce qu'il appelle « the moral matrix », qui on est grandi dans des communautés, dans des contextes, qui fait qu'on sent des choses profondément. Et ça explique pourquoi il y a tellement de divisions dans la société aujourd'hui, entre gauche et droite, ou entre globalistes, mais les gens qui sont ouverts aux autres pays et les gens qui sont plus protectifs.
Ouais.
Je trouve que c'est brillant et que je conseille à tout le monde.
Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle?
Total, ou notre géant du pétrole.
Pour en faire quoi?
pour arrêter l'hydrocarbone.
Pour la supprimer.
Ouais. Pour le transformer. Je pense qu'il faut absolument des boîtes de l'énergie dans notre monde, que les géants actuels de l'énergie puissent être des acteurs responsables qui amène le monde à une supply de l'énergie renouvelable et sans, et que les géants du pétrole sont le mieux placés pour le faire. Et s'ils ne font pas, ce sont aussi des boîtes qui sont les plus nocifs et toxiques pour l'humanité.
C'est clair. Et les plus responsables de ce qu'on va traverser dans les prochaines années, ce qu'on traverse déjà finalement sur le réchauffement climatique et ce genre de choses, quoi. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée?
Tu aurais pu me poser c'est quoi les inspirations pour un entrepreneur? Les idées viennent d'où?
Carrément. Est-ce que tu peux me répondre à cette question?
C'est ma question, mais je n'ai pas une bonne réponse. Mais je pense que c'est important de noter que les vraies inspirations ne viennent pas du monde du business, pour moi. Ça vient du monde hors business, hors chose qu'on discute dans nos conversations sur l'entrepreneuriat. C'est de la famille, c'est de la nature. C'est des bons moments qu'on passe ensemble entre amis. C'est là où on s'inspire et on se ressource. C'est important quand on parle de business, c'est aussi parler des limites du business et des limites de nos vies professionnelles.
Ouais, c'est clair. Je suis totalement aligné avec ça. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un futur épisode?
Je connais plein de super entrepreneurs avec qui on travaille chez Imagination Machine. Donc, je ne peux que te conseiller de parler avec Ralph, Pierre-Emmanuel et Arthur de Beam Energy, de Quentin et Marine de Minimonde, de Aude et Caroline de Il était plusieurs fois, okay. Caroline et Dorothée de Joe.
J'irai checker ça. Et puis ma dernière question, à chaque fois, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'état des choses, qui n'accepte pas comment la chose fonctionne aujourd'hui, et qui dit c'est pas obligatoire que ce soit comme ça. Ça, c'est le début.
Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Rob, pour cette discussion.
Merci à toi.
Beaucoup apprécié. J'espère que ça t'a plu.
Excellent, oui.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver Imagination Machine? Sur le site directement, sur les réseaux aussi?
Sur le site. Moi, j'ai un newsletter que j'ai écrit sur Substack. Ouais. Imagination Machine, on a notre site, on a notre LinkedIn où on essaie de publier nos actus.
Ok, bah écoute, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Merci Rob, et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur.
À bientôt, merci. Au revoir.